Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Judaïka Strasbourg pour un nouveau numéro de Talk Show, le magazine des médias et de la télévision. Aujourd'hui, notre invité est Antoine Vitine. Bonjour Antoine Vitine.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur d'un documentaire qui sera diffusé le 11 février à 20h50 sur France 5 dans Le Monde en Face. Et il s'agit de MBS, le prince d'Arabie. MBS, c'est, on va dire, le diminutif de Mohamed Ben Salman, c'est ça?
Oui, c'est ça, absolument.
C'est l'héritier du trône d'Arabie.
Absolument, c'est l'héritier du trône d'Arabie Saoudite, c'est le prince héritier.
Alors, dans le reportage, je vous expliquais très bien d'ailleurs dès le début que finalement, au départ, Mohamed Ben Salman n'était pas le favori pour succéder au trône. Il a dépassé son concurrent, on va dire.
Oui, bah écoutez, pour le moment, il est prince héritier d'Arabie Saoudite. Il a été nommé par son père à ce poste en 2017, et donc maintenant, sauf surprise, si son père meurt, et au moment où son père mourra, son père étant relativement âgé et en santé, et d'une santé assez moyenne, Mohamed Ben Salman deviendra roi d'Arabie Saoudite.
Alors, contrairement aux autres, d'après ce que vous dites dans votre reportage, Mohamed Ben Salman, il a, lui, plutôt étudié, resté dans le carcan familial. Il n'a pas fait de grosses études à l'extérieur.
Oui, disons que l'Arabie Saoudite est un pays qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très connecté au monde extérieur et notamment au monde occidental. Et aujourd'hui, la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des princes en vue ou des membres des familles importantes vont faire une partie de leurs études à l'étranger et en particulier aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et Mohamed Ben Salman, lui, contrairement d'ailleurs à ses frères, n'a pas fait d'études à l'étranger. Il est resté à Riyad pour étudier à la faculté de Riyad. Mais cela avait très certainement une raison, c'est que son père l'a souhaité ainsi parce que c'était le moyen pour son père de garder Mohamed Ben Salman auprès de lui et de lui apprendre finalement le métier de dirigeant, quoi.
Alors lui, c'est un jeune homme par rapport aux autres dignitaires de l'Arabie Saoudite. Pourquoi vous vous êtes intéressé à lui particulièrement ?
Bah, je me suis intéressé à lui parce qu'il est aujourd'hui le patron. C'est lui qui donne le là. Et donc, j'avais décidé de m'intéresser à l'Arabie Saoudite. Et en s'intéressant à l'Arabie Saoudite, ça revenait à s'intéresser à lui. Alors, pourquoi MBS et pourquoi pas un documentaire sur un autre sujet ? Ça, c'est autre chose. Moi, je m'intéresse depuis longtemps à un certain nombre de figures dictatoriales, notamment. Donc j'ai travaillé récemment sur Poutine, précédemment sur Bachar el-Assad, auparavant sur Muammar Kadhafi. Mmh. Et donc MBS, que je ne compare pas aux autres, il n'est pas comparable ni avec Poutine ni avec Bachar, ou d'ailleurs peut-être plus avec Poutine qu'avec Bachar dans la méthode de gouvernement. Mais MBS est quelqu'un, un personnage qui m'intéressait parce que j'essaye toujours dans mes films de mêler le géopolitique, le journalisme et le portrait plus psychologique.
Alors, MBS, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Selon vous, il est vraiment réformateur ou c'est un fumigène qu'il lance pour être admis dans le concert des grands présidents ?
Non, il est vraiment réformateur. Je pense que ça n'est pas un écran de fumée, mais il est tout ce que vous sous-entendez à la fois. Ça veut dire que c'est un réformateur parce qu'il réforme et son pays a changé. L'ambiance à Riyad et en Arabie Saoudite a changé. Ça se voit dans la rue. Le pays n'est plus le même. Il a ouvert son pays. Par ailleurs, il tente de réformer et de moderniser l'économie saoudienne. Donc tout ça est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il fait ça pour des raisons. Stratégique et des raisons d'intérêt personnel et d'intérêt national. Il fait pas ça par conviction profonde, ou en tout cas, je ne sais pas quelles sont ses convictions profondes, mais ce que je veux dire par intérêt, c'est que il s'ouvre et il se modernise et il opère un certain nombre de réformes pour donner des gages et pour montrer bonne figure au monde occidental dont il a besoin en ce moment. Et il fait ça aussi pour donner des gages et donner une bouffée d'oxygène à sa propre population dont il peut craindre qu'elle finisse par de moins en moins supporter le poids des interdits et les archaïsmes sociétaux ou économiques qui règnent dans ce pays.
Mais en même temps, il y a toujours, on va dire, tout le carcan, vous l'avez dit, et aussi une liberté encore, on va dire, limitée, malgré les réformes.
Oui, absolument. En fait, si vous voulez, ces réformes, ce sont des réformes qui sont des réformes essentiellement sociétales. Ça veut dire qu'on autorise les cinémas, on permet aux femmes de conduire. On peut aujourd'hui même se promener en Arabie Saoudite sans porter le voile. Ouais. C'est quand même pas une mince affaire. Donc ça, ce sont des réformes économiques qui sont tout à fait importantes. Mais dans le même temps, la chape de plomb est répressive, autoritaire, se maintient, voire même se renforce. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le même temps, Mohamed Ben Salman peut autoriser les femmes à conduire et exactement dans le même temps mettre en prison, embastiller des militantes féministes, parce qu'il conserve ses réflexes évidemment autoritaires, et il entend que les réformes se fassent à sa guise et sous son contrôle total.
MBS, Prince d'Arabie, ce sera, on rappelle, le mardi 11 février à 20h50 dans Le Monde en Face sur France 5. Vous parlez beaucoup d'économie dans votre documentaire, notamment le fait que le prince essaye d'attirer des investisseurs. C'est important pour lui ?
C'est plus qu'important, je pense que c'est crucial. Je pense que s'il réussit pas sur ce terrain-là, il aura de grands, grands problèmes. L'Arabie Saoudite n'a plus les moyens de son système. L'Arabie Saoudite est un pays dans lequel 80% des Saoudiens, des citoyens saoudiens, sont employés peu ou prou par le gouvernement. C'est un pays dans lequel il y avait jusqu'à très, très récemment, jusqu'à MBS d'ailleurs, pas d'impôts, pas de taxes, et où l'eau, l'électricité, par exemple, était gratuite. Et c'est un pays de 32 millions d'habitants, hein, quand même. C'est pas un petit pays dont les revenus reposent à 80% sur le pétrole. Or, du baril s'est effondré, il a été divisé par deux ou trois en quelques années, la demande occidentale décroît, pour des raisons qu'on sait, et l'avenir sera assez tôt, et enfin, les réserves saoudiennes ne sont pas éternelles. Mmh. Et donc, MBS a parfaitement compris, mais comme la plupart des gens intelligents en Arabie Saoudite et ailleurs, que le système ne peut pas être soutenu et qu'il faut moderniser l'économie. Donc c'est absolument crucial. S'il ne parvient pas à moderniser son économie et assurer un train de vie et des emplois à sa population, je redoute de grandes catastrophes, dont l'Arabie Saoudite en premier lieu, mais aussi le monde paiera le prix.
Mais pourquoi les investisseurs étrangers sont si frileux à investir en Arabie Saoudite ? C'est quoi le problème ?
Ben, ils sont frileux parce que lorsque vous mettez votre argent quelque part, vous voulez être sûr que ça va marcher. Ouais. Et il y a des vraies questions qui sont liées au projet économique de MBS justement, à ce qu'il propose, des questions qui sont liées à sa personne et à l'imprévisibilité de sa politique, plus des questions qui sont liées à la situation géopolitique de l'Arabie Saoudite qui est face à l'Iran. Je pense que, si vous voulez, les Saoudiens ont décidé de privatiser partiellement Aramco, qui est la société pétrolière saoudienne, qui est quand même un gigantesque mastodonte. Et là, pour le coup, c'est un investissement qui peut paraître un peu plus sûr qu'aller investir dans la cité touristique du futur ou la cité des robots Neom qu'avait proposé Mohamed Ben Salman. Et bien même la privatisation partielle de Aramco a suscité peu d'enthousiasme, parce qu'il y a des incertitudes et parce que, par exemple, le bombardement des installations pétrolières saoudiennes par l'Iran il y a 3 mois, ça ne fait pas partie des choses qui sont propres à rassurer. Donc il y a cette incertitude-là qui est, je pense, une très mauvaise pour Mohamed Ben Salman. Il va falloir qu'il trouve les, les moyens de rassurer s'il veut que ses projets économiques fonctionnent, ça c'est certain.
Alors Antoine Vitine, dans le reportage toujours, vous expliquez que Mohamed Belsalman est arrivé notamment au pouvoir parce qu'il a de très bons rapports avec les États-Unis. On va parler géopolitique, les États-Unis c'est, on va dire, le grand ami de l'Arabie Saoudite.
Oui, les États-Unis c'est évidemment le grand allié, le protecteur, et c'est je dirais pas forcément ami, parce que je pense qu'il y a peu de sentiments en la matière, et je pense que les Américains n'aiment pas beaucoup les Saoudiens. Et la population, et les élites américaines, tous se souviennent par exemple du 11 septembre, qui a été perpétré par des Saoudiens en grande majorité. En revanche, les États-Unis sont le grand protecteur, le grand fournisseur. Les Saoudiens achètent des milliards d'équipements, et notamment d'armes aux États-Unis, donc tout ça compte. Et plus précisément, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce sont les Américains, les présidents américains qui décident du leadership à Riyad. C'est d'abord décidé en interne. Si MBS est là, c'est que son père l'a voulu. D'accord. En revanche, afficher et avoir une proximité plus forte avec un président X ou Y, c'est un accélérateur de carrière aux en Arabie Saoudite. Et Mohamed Ben Salman, quand il a pu afficher cette proximité avec Donald Trump, évidemment, en a très fortement bénéficié. Et je n'en ai pas la preuve, mais je pense que ça a accéléré sa mise sur orbite et son accession au pouvoir.
Alors, dans le viseur, il y a aussi l'affaire Khashoggi, le journaliste qui a été, assassiné par les services de secret du prince d'Arabie, de MBS. Vous pensez qu'il était au courant du début jusqu'à la fin ?
C'est ce que dit la CIA, mais vous... avec un degré de certitude très élevé. Vous savez que la CIA a un système de classification de l'information qui va de incertain à très totalement sûr. Et là, on est sur l'échelle assez haut. Donc c'est ce que dit la CIA.
Et vous en pensez quoi ?
Moi, j'ai pas plus d'informations de la CIA, donc ce que je sais, c'est que les informations de la CIA, celles qui sont sorties en tout cas, sont solides, sont crédibles. J'imagine effectivement qu'il était d'une manière ou d'une autre au courant qu'une opération de cette ampleur, c'était pas un simple petit journaliste, c'était pas un simple petit opposant Khashoggi, c'était un vrai problème pour lui, c'était quelqu'un qui était connu, qui était relativement important. Donc j'imagine qu'une opération comme celle-là aurait pu difficilement se décider sans qu'il en soit au courant. Et quand même il n'aurait pas été au courant ou n'aurait pas donné l'ordre direct, de toute façon c'était sous sa responsabilité, c'est-à-dire lui-même l'a reconnu. Voilà ce que je peux vous en dire.
D'accord. MBS, Prince d'Arabie, le documentaire réalisé par Antoine Vitine, ce sera le mardi 11 février à 20h50 sur Arte. Il y a aussi une question qui se pose là aussi en géopolitique, c'est le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mohamed Belsalman, lui, il est plus pour le rapprochement ou plus à rester dans le statu quo? Quel est son avis?
Bon, alors lui... ses deux objectifs principaux, je dirais, c'est d'être proche de Donald Trump, des États-Unis, et il sait très bien que pour Trump et les États-Unis, Israël est quelque chose qui compte, et qui compte beaucoup plus que l'Arabie Saoudite, et il est contre l'Iran, et c'est réciproque, d'ailleurs, les Iraniens sont contre l'Arabie Saoudite. Et je pense que c'est les deux raisons principales qui font que il est pour un rapprochement un peu plus accru, sans doute, que la génération précédente avec Israël. Et la génération précédente était déjà pas totalement hostile. Vous connaissez tout le passif, différentes tentatives de conciliation, le plan Abdallah, etc. Donc MBS, lui, je pense, voudrait très certainement aller un peu plus loin. Il y a une autre raison qui est aussi l'économie, encore une fois, c'est qu'il sait parfaitement ce que sont les entreprises israéliennes. Et il est très branché à nouvelles technologies, Silicon Valley, et la Silicon Valley est elle-même assez connectée avec Israël. Lui est plutôt partisan d'un réchauffement, mais ce sont des choses qui avancent très lentement. C'est indexé en grande partie sur le processus de paix israélo-palestinien qui est au point mort. Mmh. Et donc je pense que tant que ce processus n'aura pas redonné signe de vie, ce qui est totalement incertain, je pense que les liens entre Israël et l'Arabie saoudite resteront des liens assez officieux, des liens sécuritaires qui existent, des liens de services de renseignement, ouais. Mais qu'il sera difficile de les officialiser d'une quelconque manière.
Il y a un autre pays que Mohamed Ben Salman n'aime pas trop, c'est le Qatar. Oui. Pourquoi il a un problème avec le Qatar? C'est par rapport à l'Iran, au terrorisme?
Oui, il a un problème avec le Qatar, alors qui n'est pas du même ordre que l'Iran. L'Iran est un véritable ennemi. Le Qatar, c'est le cousin de la famille avec qui on a un conflit, quoi. C'est pas exactement la même chose. Ce qu'il reproche au Qatar, c'est plusieurs choses, mais si je devais le résumer, c'est d'être finalement une puissance qui a joué la révolution dans la région. Ce que je veux dire par là, c'est que le Qatar a soutenu les printemps arabes, a soutenu des révoltes populaires qui sont devenues assez rapidement des révoltes islamistes et frères musulmans contre des régimes en place, et que l'Arabie saoudite veut le statu quo. L'Arabie saoudite préfère des régimes autoritaires classique militaire, dans le cas égyptien par exemple, qui est le grand soutien, enfin que l'Arabie saoudite soutient fortement. Et donc l'Arabie saoudite a reproché ça au Qatar, de soutenir les frères musulmans, d'agiter la région avec Al Jazeera, et donc cet antagonisme est monté en puissance, et ça s'est terminé par une tentative de blocus terrestre, maritime, aérien de l'Arabie saoudite, qui n'a pas d'ailleurs porté beaucoup ses fruits.
À quel avenir on peut voir pour l'Arabie saoudite et pour MBS? Qu'est-ce qu'on peut déjà dire qu'on voit arriver?
Écoutez, c'est difficile à dire, mais je pense que l'avenir à moyen et long terme de l'Arabie saoudite, je pense, est indexé sur les capacités de réforme de MBS ou de quiconque voudrait réformer.
Réforme sociétale ou économique et
les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une économie moderne si on n'a pas une société moderne. Donc, je pense que ça, ces réformes-là sont centrales. Si elles sont menées à bien, effectivement, l'Arabie saoudite aura un avenir dans la région. L'Arabie saoudite pourrait ressembler un peu plus à Dubaï qu'un autre modèle. Je pense que c'est ça la potentialité de l'Arabie saoudite. C'est quand même un pays qui est un très gros territoire, par ailleurs, hein, beaucoup plus que Dubaï, évidemment. Donc, si les réformes sont menées à bien, l'Arabie saoudite sera un acteur du Moyen-Orient tout à fait important. En revanche, si ces réformes échouent, alors là, je pense qu'on peut tout imaginer. On peut tout imaginer jusqu'à un changement de régime brutal dans un pays qui, je le rappelle, les citoyens, les Saoudiens ont biberonné au wahhabisme à l'école. Alors maintenant, c'est plus vraiment le cas, mais pendant longtemps, c'était le cas. Donc vous imaginez toutes les conséquences que cela pourrait induire en termes sécuritaires, djihadistes, etc.
On peut imaginer un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Europe, puisque l'Arabie saoudite et les États-Unis. C'est possible?
La relation avec l'Europe, de toute façon, est assez bonne. Hein. L'Arabie saoudite est alliée avec l'Europe, avec les différents pays européens, beaucoup pour des raisons sécuritaires, coopération antiterroriste, vente d'armes, pétrole et toutes ces choses-là. Disons que l'intensité de la relation est fonction de l'intensité de la relation avec les États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que lorsque la relation avec les États-Unis est un peu moins bonne, c'était le cas sous Obama, la relation avec l'Europe est un peu plus forte. Et la France en avait bénéficié à l'époque d'Obama. Maintenant, les Saoudiens n'ont vu que pour Trump. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est assez lié à ça.
MBS, Prince d'Arabie, le documentaire d'Antoine Victine, Le Monde en face, le mardi 11 février à 20h50. Le documentaire sera suivi d'un débat nié par Marraine Carrère d'Ancos. Alors Antoine Victine, avant de nous quitter, vous avez des projets futurs? Qu'est-ce que vous nous préparez dans les mois à venir?
Écoutez, j'ai pas de projet dont je peux parler maintenant, mais vous serez mis au courant, évidemment, lorsque je pourrai en parler.
Mais voilà. Ça concerne quoi?
C'est un excellent teaser pour vos auditeurs.
Ouais, non, mais vous pouvez nous en dire un peu plus.
Ils auront envie de suivre ce que je ferai à l'avenir.
C'est sur le Proche-Orient, sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est...
Écoutez, alors, non, c'est pas un film historique, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, ouais. Et c'est à cheval entre le Proche-Orient, effectivement, enfin le Moyen-Orient, les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Asie. Vous voyez, donc c'est assez vaste.
Voilà.
C'est un sujet qui est un sujet géopolitique. C'est une enquête, en fait.
Voilà.
C'est une investigation sur un sujet qui couvre tous ces territoires.
Voilà, on en saura plus en temps voulu. Notre invité était Antoine Victine, réalisateur de documentaire qui passera mardi 11 février. Merci beaucoup, Antoine Victine.
Merci beaucoup pour votre invitation.
À très, très bientôt.
Merci, au revoir, à bientôt.